Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Lors du journal, bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Le démocrate Lee Jae-myung a remporté l'élection présidentielle en Corée du Sud. Le scrutin vient de se terminer et met fin à 6 mois de chaos politique. Nous retrouverons dans un instant notre correspondant à Séoul avec le vainqueur. Nous irons au Proche-Orient avec une nouvelle attaque ce matin très meurtrière contre des civils qui se rendaient dans un centre de distribution d'aide humanitaire à Gaza. 27 morts aujourd'hui, l'armée reconnaît des tirs de sommation, l'ONU évoque un crime de guerre. Et puis nous verrons que les manifestations et les soupçons de corruption ont eu raison du Premier ministre mongol. Il perd un vote de confiance et démissionne. Enfin de la musique pour conclure avec le dernier album de Julien Clerc en 60 ans de carrière.
C'est un triomphe donc en Corée du Sud pour le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung à la présidentielle.
Le favori des sondages s'est imposé même largement dans ce scrutin présidentiel à un seul tour. Lee Jae-myung, candidat de l'opposition de centre-gauche, le Parti démocrate, remporte le scrutin avec 51% des voix. Les Sud-Coréens ont choisi de rompre avec le parti de l'ex-président destitué Yoon Suk-yeol. Nous sommes en direct à Séoul, au siège du Parti démocrate, avec notre correspondant Célio Fioretti. Bonjour Célio.
Bonjour.
Alors on imagine l'ambiance festive et de victoire autour de vous.
Oui, c'était une effusion de joie à l'annonce des résultats, là où le parti s'est réuni. Les députés et cadres du Parti démocrate se félicitent, et notamment leur champion, Lee Jae-myung, qui vient de remporter cette élection présidentielle. Ce dernier n'était pas présent, il a préféré regarder les résultats à la maison, en famille. Cet ancien avocat en droit du travail reconverti dans la politique, maire puis gouverneur de province, la présidence lui avait échappé en 2022 à seulement 0,7% des voix. Il a désormais pris sa revanche sur l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué en décembre dernier. Son adversaire Kim Moon-soo du Parti conservateur récolte lui 39% des voix. Il n'a pas encore concédé sa défaite. Lee Jae-myung fera un discours de victoire plus tard dans la soirée devant l'Assemblée nationale. C'est également demain que Lee Jae-myung prendra officiellement ses fonctions. Une inauguration en urgence pour rattraper les 6 mois d'instabilité politique qui ont mis à mal l'économie coréenne.
Célio Fioretti en direct de Séoul.
Le carnage se poursuit à Gaza. L'armée israélienne a de nouveau tiré sur la foule en quête de nourriture près d'un centre d'aide humanitaire.
27 personnes ont été tuées, annoncent les secours palestiniens. C'est le troisième incident du genre en à peine 3 jours, dénonce l'ONU, qui évoque un crime de guerre. L'armée avait jusque-là nié son implication dans ces fusillades, mais ce matin, elle reconnaît des tirs de sommation. On retrouve en direct de Jérusalem Sami Boukhalifa. Alors Sami, le bilan est encore très lourd ce matin à Rafah.
Oui, 27 morts et 90 blessés, un nouveau massacre dans le sud de la bande de Gaza où afflue la population affamée. C'est dans cette région de Rafah que se trouve le centre de distribution alimentaire. Après 2 mois et demi de blocus strict, Israël a assoupli ces derniers jours ses restrictions qui visaient l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais l'État hébreu a démantelé le réseau existant de l'ONU pour la distribution de nourriture à Gaza et l'a remplacé par un autre mécanisme, la Fondation humanitaire de Gaza, une société privée au financement opaque qui ne parvient pas jusqu'à présent à assurer sa mission. Les Gazaouis la surnomment la Fondation inhumanitaire. Elle travaille sous la garde des soldats israéliens. Les gens ont faim, ils ont soif, ils se bousculent, ils luttent pour leur survie, pour repartir avec une ration de nourriture. Mais au moindre mouvement de foule, l'armée nous mitraille sans hésitation, témoigne Bara, un jeune Gazaoui, au micro de notre correspondant sur place. Les attaques meurtrières contre des civils désespérés qui tentent d'accéder à des quantités dérisoires d'aide humanitaire à Gaza sont inadmissibles, proteste l'ONU.
Sami Boukhalifa en direct de Jérusalem.
En Grande-Bretagne, la pression monte pour faire libérer un britannico-égyptien qui est détenu au Caire.
Députés et associations appellent le gouvernement britannique à faire libérer immédiatement Alaa Abdel Fattah. Il est emprisonné illégalement en Égypte depuis 2019 et pour sauver sa mère, Leila Souef, en grève de la faim depuis 247 jours. La sexagénaire hospitalisée refuse tout traitement tant que Downing Street n'aura pas fait preuve de fermeté vis-à-vis du Caire et considéré Alaa Abdel Fattah comme un otage d'État. Laila Souef s'est exprimée ce matin au micro de la BBC, le récit d'Emeline Vin.
Sa grève de la faim a débuté en septembre. Hospitalisée depuis 3 jours sous perfusion de protéines, Leila Souef risque de décéder à tout instant. D'une voix rauque, épuisée, elle se dit prête à mourir dans cette interview à la BBC.
Something that I
C'est quelque chose que je ne veux vraiment pas, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour qu'Allah soit libéré et pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent reprendre une vie normale. Maintenant que j'ai pris cette décision, que j'ai décidé d'affronter le régime égyptien, je ne peux plus faire machine arrière.
Ce mardi, son état s'est légèrement amélioré, mais elle ne recommencera à se nourrir que quand son fils sera libéré, lui qui aurait dû quitter les prisons du Caire en septembre dernier. Pour elle et pour sa famille, le sort d'Allah et donc la survie de Leïla dépendent du gouvernement britannique.
Le Premier ministre Starmer a parlé deux fois au président Sisi et le ministre des Affaires étrangères parle à son homologue égyptien. Ils disent qu'ils travaillent dur, mais il doit bien y avoir un autre levier qu'ils peuvent activer.
Reporters sans frontières et plusieurs députés britanniques relayent l'appel de Leïla Souyef à accélérer les tractations diplomatiques. Emeline Vallandre, RFI.
Dans l'actualité également, le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Deux étapes dans le conflit viennent de se succéder pour la Russie. Une attaque de drones de l'Ukraine d'une ampleur jamais vue sur des cibles militaires sensibles russes. Et les seconds pour parler direct avec Kiev hier à Istanbul. Sur les deux sujets, Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé. Et Moscou poursuit imperturbable, en tout cas en surface, sa guerre. Anissa El-Jabri.
Explosion sur les lignes ferroviaires et attaque massive de drones jamais vues à une question qui liait les deux attaques, pourtant d'une ampleur et d'un impact totalement différents, celle de Kiev, sur les aérodromes militaires russes étant tout particulièrement du jamais vu. Le porte-parole du Kremlin a répondu avec une tactique bien éprouvée, des éléments de langage d'un classicisme bien connu. Le président est informé et il faut attendre le résultat des investigations, pas un mot sur une éventuelle réponse militaire. Sur les échanges directs Moscou-Kiev de la veille. Dimitri Peskov s'est en revanche montré plus bavard, plus tranchant aussi que ces dernières semaines. Il serait erroné de s'attendre à des percées immédiates, a-t-il dit. Moscou, qui se sait accusé d'enliser à dessein les échanges, souligne encore une fois qu'à ses yeux, je cite encore, le règlement du conflit est extrêmement complexe. Quant à une rencontre tripartite Trump-Poutine-Zelensky, la position de la Russie n'a pas bougé d'un iota, c'est non. Pour celle entre Trump et Poutine, là aussi, rien ne change. La porte est ouverte. En tout cas, le Kremlin la souhaite. Agnès El-Jabri, Moscou, RFI.
En Mongolie, une enquête anticorruption et des semaines de manifestations ont eu raison du Premier ministre Lufsanam Rayn-Oyun Erdene du Parti du Peuple Mongol, PPM. Il a perdu ce mardi un vote de confiance au Parlement d'Oulan-Bator et a démissionné dans la foulée. L'ex-avocat de 44 ans restera pour l'instant aux commandes, le temps qu'un successeur soit nommé dans les 30 jours. Les précisions d'Heike Schmidt.
C'est la photo d'un sac Dior qui a précipité la chute du premier ministre. Postée par la fiancée de son fils, elle a fait le tour des réseaux sociaux et déclenché la colère de la jeunesse mongole en quête de justice sociale. D'autres clichés montrant le couple s'embrassant dans une piscine ont fait le reste. Les avertissements d'Oyun Erdene que sa démission plongerait le pays dans l'instabilité et serait une menace pour la démocratie n'y ont rien changé. Lors du vote de confiance au Parlement, il n'a obtenu le soutien que de 44 députés, trop peu pour se maintenir en place. Il lui aurait fallu une majorité de 64 voix pour l'emporter. L'ex-pays communiste, enclavé entre la Chine et la Russie, régorge de ressources naturelles, mais le cuivre, le charbon, les terres rares ou encore le pétrole ne profitent qu'à une petite élite politique et économique, estime de nombreux Mongols. Gangréné par la corruption, le pays au vaste steppe se trouve à la 114e place sur les 180 pays évalués chaque année par l'ONG Transparency International.
En France, un meurtre raciste secoue la classe politique et le ministre de l'Intérieur est visé.
Un homme de nationalité française a tué ce week-end dans la soirée dans le Var, dans le sud de la France, l'un de ses voisins de nationalité tunisienne et en a blessé un autre de nationalité turque. Le meurtrier présumé a posté des vidéos racistes et avait comme volonté de troubler l'ordre public par la terreur. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé un crime raciste et prémédité, ajoutant que chaque acte raciste est un acte anti-français. L'avocat de la famille du Tunisien assassiné dénonce, lui, le climat politique qui règne en France. Discours largement repris par la gauche qui va jusqu'à accuser le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les explications de Raphaël Delvolvé.
Pour Olivier Faure, en quête d'une réélection à la tête du Parti Socialiste, Bruno Retailleau a une part de responsabilité dans le meurtre d'Hichem Mirawi. Pour le patron du PS, le ministre propage un racisme d'atmosphère pour une fois total alignement avec la France insoumise, le député Adrien Clouet.
Aujourd'hui, on a effectivement une libération de la parole islamophobe et plus généralement raciste d'extrême droite et repris au plus haut niveau par monsieur Retailleau et ses amis. Eh ben oui, lorsque des discours racistes circulent, les pratiques racistes se voient légitimées.
La gauche impute notamment au ministre ses sorties sur les Français de papier ou plus récemment sur les barbares pour qualifier les émeutiers de ce week-end sur les Champs-Élysées, sans pour autant défendre Bruno Retailleau, dont il est aussi une cible régulière. Le Rassemblement National juge l'accusation de la gauche infondée, Jean-Philippe Tanguy.
Non, je ne comprends pas cette mise en accusation et aucune force politique n'a de propos racistes dans notre pays. Il faut s'en féliciter. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.
Dans le socle commun, Mathieu Lefèvre, député de l'aile droite des macronistes, dénonce lui un faux procès contre le locataire de Beauvau.
Ah pardon, mais c'est pas Bruno Retailleau qui a assassiné quelqu'un en raison de sa religion. C'est profondément injuste vis-à-vis de Bruno Retailleau qui a condamné ce crime atroce.
Le ministre de l'Intérieur a également évoqué une dimension terroriste au meurtre de samedi. Il s'est rendu ce matin à l'ambassade de Tunisie à Paris.
Toujours en France, on apprend que le policier auteur du tir qui a tué Naël, le jeune Naël, en 2023 à Nanterre, sera jugé pour meurtre aux assises.
Oui, Naël, un adolescent de 17 ans, il avait été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait. Cette mort avait entraîné des semaines d'émeutes en France. Le policier auteur du tir sera donc jugé pour meurtre. Il s'agit d'une décision conforme aux réquisitions du parquet. Le procès se tiendra l'année prochaine.
Et en France encore, la suite du scandale du traitement des eaux minérales.
Un scandale qui touche notamment le géant agroalimentaire Nestlé Waters. Une association de consommateurs lance ce mardi 3 procédures judiciaires pour à la fois identifier l'ensemble des responsabilités et pour protéger les consommateurs, comme l'explique dans cette première action en justice Magali Butard, responsable du service juridique du FC Que Choisir.
Le FC Que Choisir considère qu'il y a urgence désormais à ce que Nestlé cesse ses pratiques de tromperie au préjudice des consommateurs. Et ça, ça passe par différentes mesures que l'on demande au juge des référés, puisque malgré les faits accablants qui résultent notamment du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, rien, absolument rien n'a été fait et rien n'a été mis en place par les pouvoirs publics pour protéger le consommateur. Donc on demande au juge des référés, en urgence, de prononcer des mesures de rappel de produits, de retrait du marché, de ces eaux Perrier estampillées eau minérale naturelle, alors qu'en fait, elles n'ont plus rien de naturel, eu égard au traitement illicite que Nestlé opère sur ces eaux, et notamment des traitements aux fins de désinfection de ces eaux, et puis que cesse l'usage de l'appellation eau minérale naturelle sur l'ensemble des supports de communication.
Magali Butard, responsable du service juridique du FC Que Choisir, interrogée par Sylvie Coffi.
Et on termine en musique, Olivier.
Avec un artiste qui accompagne la vie des Français depuis presque 60 ans, grâce à des tubes comme Ma préférence, Ce n'est rien, ou encore Femme, je vous aime, bien sûr c'est Julien Clerc. Il fait son grand retour avec un album intitulé Une vie, dont il signe comme à l'accoutumée toutes les musiques. Edmond Sadaka a écouté ce disque pour nous.
J'étais un moineau de banlieue, ni bleu ni rouge, juste au milieu.
Pour son 28e disque, Julien Clerc a posé sa musique sur des textes d'auteurs chevronnés comme Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay qui a réalisé l'album, ou encore Serge Lama. Mais il a fait appel aussi à un jeune parolier, Paul École, qui lui a écrit 3 chansons dont le titre phare, Saint-Nazaire.
Il y avait l'amour que nous partagions, mais sans se le dire comme des garçons. Ces mots qui naissaient que l'on préfère taire, c'est ainsi sûrement que s'aiment les frères.
Saint-Nazaire a été écrite en hommage au demi-frère du chanteur, le journaliste Gérard Leclerc, mort il y a presque 2 ans dans un accident d'avion. Julien Clerc a tenu à composer une musique pas trop triste.
Je voulais une chanson positive. Et quand j'ai reçu le texte quelques temps après, j'ai vu que je pouvais écrire effectivement une musique pas trop triste. Je trouvais que ça ressemblait plus à mon frère.
Au fil des 11 titres, Julien Clerc raconte ses joies ou ses peines, mais il n'oublie pas évidemment de parler d'amour, comme sur Toi et moi, une chanson signée Carla Bruni.
Nos chagrins, nos beaux dégâts, s'inquiétant de je ne sais quoi. S'il fallait choisir ma foi, je ne ferais plus rien que toi.
Julien Clerc qui repartira sur les routes dès l'an prochain avec une tournée intitulée Une vie. Il fêtera ses 80 ans sur scène à l'Accor Arena de Paris le 9 octobre 2027. Voilà la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Olivier Sherman. 14h15 à Paris. On va parler maintenant de l'actualité sportive. Bonjour Solène Ravenel.
Bonjour Anne.
On commence par du tennis, tournoi de Roland-Garros oblige, les matchs continuent, c'est le début des quarts de finale aujourd'hui.
Et quatre matchs à l'affiche aujourd'hui. Du côté féminin, Arina Sabalenka, la première au classement mondial, s'est imposée face à la chinoise Chin Wen Zheng. Après un set accroché, la Biélorusse a déroulé dans le deuxième set, première qualifiée en quart de finale. Et elle sera opposée à la gagnante du match entre la triple tenante du titre Iga Swiatek et l'ukrainienne Elina Svitolina. On retrouve Frédéric Suto en direct de Roland-Garros. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Solène.
Et le match a débuté il y a quelques minutes et Iga Swiatek a déjà breaké dans le premier set.
Oui, elle est au service, la Polonaise, actuellement, pour remporter peut-être cette première manche face à Elina Svitolina, puisqu'elle mène 5-1. Iga Swiatek, vous l'avez dit, triple tenante du titre ici à Roland-Garros, mais qui n'a pas remporté de tournoi depuis cette couronne de l'an passé. Hein, les derniers mois étaient difficiles pour elle, et elle a bien failli sortir du tournoi au tour précédent, Iga Swiatek face à Elena Rybakina, la kazakhstanaise. Elle était menée 6-1, 2-0 et il a fallu qu'elle aille chercher très loin, au plus profond d'elle-même, pour renverser cette partie, peut-être le match référence qui lui manquait. Elle est au service, elle mène 30-15 à 2 points donc de cette première manche. Elina Svitolina face à elle, hein, l'épouse de Gaël Monfils, qui en est à son 5e quart de finale à Roland-Garros, mais elle n'a jamais dépasser ce stade, et elle aussi, elle revient de très très loin, puisqu'en 8e de finale, face à Yasmine Paolini, l'italienne finaliste l'an passé, Elina Svitolina a sauvé il y a 2 jours 3 balles de match. Il faudra en mettre encore plus aujourd'hui pour renverser Iga Swiatek, qui à l'instant remporte la première manche. 6-1.
Changement de balle,
si vous merci Frédéric Suto. Et cet après-midi, l'Américain Française Tiafoe affronte l'Italien Lorenzo Musetti, tandis que son compatriote Tommy Paul sera confronté au champion en titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, lors de la session nocturne.
Du football, l'équipe de France est réunie au complet depuis hier au centre d'entraînement de Clairefontaine pour préparer les phases finales de la Ligue des Nations.
Après avoir éliminé la Croatie au tir au but en quart de finale, les Bleus affrontent l'Espagne jeudi à Stuttgart en Allemagne. Un adversaire de taille puisque les Espagnols sont champions en titre. Un défi important pour Manu Koné, le milieu de la Roma, arrivé en équipe de France au début de la saison. En conférence de presse, il a retracé son jeune parcours en bleu.
J'ai fait ma première sélection en septembre. Jusqu'à présent, j'y suis encore. Donc je suis très content. J'essaie de donner le meilleur de moi-même au quotidien, aux entraînements et surtout en match. Quand j'ai l'opportunité d'avoir des minutes de jeu ou quand le coach me fait confiance, j'essaie de me donner au maximum et de rester surtout moi-même. Je suis très content d'être là. On a une bonne équipe et j'espère qu'on ira loin ensemble. On est des compétiteurs. On sait que c'est un trophée à avoir, donc on va aller chercher ce trophée-là. Et on sait qu'il faut passer par l'Espagne. On est tous galvanisés. À l'entraînement, on se donne à fond. On a bien couru, je peux vous dire, le dernier jour. On bosse bien. Donc on est confiant et on va arriver au match l'esprit frais et tenter de gagner ce match.
L'équipe de France qui affrontera donc l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi à 18h45, temps universel. Match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Et demain, l'autre demi-finale opposera l'Allemagne au Portugal.
Merci Solène Ravenel. Le couvre-feu est de nouveau plus strict à Tombouctou au Mali après une attaque djihadiste d'ampleur contre plusieurs points militaires et l'aéroport. Les assaillants, membres du JNIM, revendiquent des dizaines de morts et de blessés. L'armée malienne, elle, dit avoir tué 14 terroristes, mais les chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Le JNIM a mené plusieurs attaques récemment et nous en parlons avec notre invité. Bonjour Sadiq Abba.
Bonjour.
Président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, vous êtes l'auteur du livre « Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous » qui est paru aux éditions Impact Éditions. Il y a 2 ans maintenant, il y a eu plusieurs attaques, pas seulement au nord du Mali. En une dizaine de jours, le groupe djihadiste a fait plus d'une centaine de morts dans les rangs de l'armée. Comment est-ce que vous expliquez ce regain de violence ?
Non, je crois que le JNIM a pris nettement l'ascendant sur les 3 autres mouvements djihadistes qu'il y a au Sahel. L'État islamique au Grand Sahara, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et dernièrement le Lakraoua. Le JNIM a pris cette longueur d'avance et la perpétuation des attaques sur l'ensemble du territoire montre qu'il n'y a aucune partie du Mali qui est à l'abri désormais, que le JNIM fait frapper partout, parce que avant les attaques que vous avez évoquées, le JNIM a quand même frappé en septembre 2024 l'école de gendarmerie de Bamako et l'aéroport de Bamako. Et le renforcement des capacités opérationnelles du JNIM peut s'expliquer par deux faits. Le premier, c'est le rapprochement qu'il a opéré avec le Front de libération de l'Azawad, qui est formé par les ex-signataires des accords d'Alger, et aussi le contexte qui a fait que ces derniers temps, à travers les opérations qu'il a pu conduire, il a récupéré beaucoup d'armes, y compris des drones sur les forces armées sahéliennes, que ce soit celles du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Lorsqu'on ajoute à tous ces éléments la capacité à recruter qui ne s'est pas tarie, on comprend aujourd'hui que le JNIM est devenu un mouvement supranational avec une capacité à opérer sur l'ensemble du territoire sahélien.
Et justement, on a vu aussi une augmentation d'attaques djihadistes au Niger et au Burkina Faso, que vous venez de citer. Est-ce que les enjeux, les objectifs sont les mêmes dans ces pays-là qu'au Mali?
Oui, le JNIM a un projet d'extension territoriale, celui de porter l'agenda de ses attaques du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Il a déjà attaqué le Bénin et il a déjà attaqué le Togo. D'ailleurs, il y a un projet d'installation d'une nouvelle zone de trois frontières entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, et une autre zone de trois frontières entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Dans le cadre de cet agenda d'extension de la menace du Sahel vers le Golfe de Guinée, le JNIM fait des progressions dans l'ensemble de ces deux territoires que vous avez évoqués, au Burkina Faso comme au Niger. Il a intensifié ses activités sur la rive droite du fleuve Niger, qui correspond un peu à la frontière avec le Burkina et le Niger, dans la zone de du parc du W et de la Pingérie. Donc, dans le cadre de ce projet-là, d'extension de la menace du Sahel vers le Golfe de Guinée, même un basculement de la menace du Sahel vers le Golfe de Guinée, le JNIM procède à des avancées territoriales sur le territoire du Niger, sur le territoire du Burkina, comme d'ailleurs au Mali, où on voit que de nouvelles zones dans le sud, par exemple dans la région de Kaï, sur la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, sont désormais concernées par les attaques du JNIM.
Alors au-delà de cette volonté d'étendre la zone d'attaque, la zone d'action du JNIM, est-ce qu'il y a un objectif politique?
Oui, l'objectif politique, il transparaît. Il n'y a pas aujourd'hui, je crois, une volonté du JNIM de prendre des capitales pour les administrer, parce que le défi serait pour lui d'administrer les capitales. Il n'y a pas ce projet de prendre, mais il y a un projet de maintenir la pression sur les gouvernements et peut-être d'obtenir l'ouverture des négociations, des concessions, puisqu'on a pu voir déjà que par-ci, par-là, il y a des accords locaux qui sont négociés avec le JNIM, y compris dans le cas du Mali, avec la bénédiction du pouvoir. Donc, il y a cette volonté d'exercer de pression et d'amener les pouvoirs militaires du Sahel à reconsidérer leur position, de fermer définitivement les voies du dialogue pour qu'au moins on puisse discuter.
Pour obtenir quoi, par exemple ?
Obtenir, par exemple, l'application de la charia, même si c'est une application soft de la charia, obtenir l'application de la charia, obtenir des concessions. Il y a aujourd'hui, pour le mouvement djihadiste du Sahel, une fenêtre d'opportunité, parce qu'une de leurs revendications était le départ des forces internationales de la région du Sahel. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, pour eux, l'agenda de maintenir la pression sur le gouvernement pour imposer des négociations, des concessions politiques d'ordre, comme l'application de la charia, le renoncement à un certain nombre de choses, sont devenus possibles. Et en maintenant la pression, en créant un rapport de force favorable, ils pensent pouvoir imposer leur agenda au pouvoir sahélien, au Burkina Faso, au Mali comme au Niger.
Et comment expliquez-vous que le bilan soit si lourd à chaque fois pour les armées des pays concernés?
Parce que le JNIM a acquis une capacité opérationnelle. Dans le cas précis de l'attaque de Tombouctou, il y a des mortiers qui ont été utilisés. Il y a de plus en plus d'armes sophistiquées, y compris des drones qui sont utilisés par les mouvements djihadistes dans le JNIM. Et ces armes ont été récupérées sur les armées elles-mêmes, sur les armées sahéliennes. Il y a une étude documentée qui prouve que le premier fournisseur aujourd'hui des mouvements djihadistes, ce sont les armées. Donc quand les JNIM prennent des moyens militaires, des moyens létaux, sophistiqués sur les armées, ils les retournent contre elles et on arrive à ces bilans assez catastrophiques comme vous l'avez indiqué.
Pour des attaques dont en fait l'armée parle assez peu, généralement il n'y a pas trop de commentaires. L'argument avancé c'est qu'il ne faut pas démoraliser les troupes et la population d'ailleurs. Ça marche ?
Il y a cette dimension, mais il y a aussi la justification politique. Les coups d'État ont été justifiés par les militaires, par l'incapacité des civils à assurer la sécurité. Si eux-mêmes n'arrivent pas à assurer la sécurité, ça prouve que l'argument qu'ils avaient invoqué pour prendre le pouvoir ne suffit pas. Au-delà de ça, il y a aussi l'erreur qui est commise, celle de penser que la réponse aux défis sécuritaires au Sahel reste militaire et sécuritaire. Les pouvoirs militaires ont augmenté le budget, ont acheté des drones, ont acheté beaucoup de moyens militaires, mais ça ne suffit pas parce que la dimension non militaire, par exemple le chômage de jeunes, les injustices, la cohésion sociale, tout ça n'est pas pris en compte. Donc ça fait que la réponse qui est apportée actuellement ne marche pas.
Et que ces groupes peuvent recruter, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Merci Sedhi Kaba d'avoir été en ligne avec nous, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Je vous redonne aussi le titre de votre livre, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est paru chez Impact Éditions. Merci.
Au revoir.
Reportage au Liban, pays ultra pollué par les microplastiques, par les montagnes de déchets qui s'accumulent au bord de la mer, les poubelles abandonnées le long des cours d'eau, sans que le sujet ne devienne une priorité politique. L'écologie passe souvent au second plan, voire plus, après la guerre entre Israël et le Hezbollah, après les crises économiques. Pourtant, quelques associations, quelques militants tentent de réutiliser les déchets, de les recycler, comme l'a constaté notre correspondante Sophie Guignon.
Au Liban, la mer est bordée d'immondices. À Kfar Arbida, à 50 km au nord de Beyrouth, des écoliers viennent nettoyer la plage avec des bénévoles de l'ONG Swim. Marco Sado est biologiste marin.
Le microplastique va aller dans l'eau. Micro, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et les poissons et les algues l'absorbent et automatiquement, ça va se retrouver dans notre alimentation. Si chacun ramasse une bouteille, il peut sauver des millions et des millions de vies sous-marines.
Les adolescents découvrent l'ampleur de la pollution en Méditerranée, la mer la plus contaminée du monde. Marcus Najar, 16 ans, et Talia Kanir, 15 ans.
C'est du verre, du bois, un paquet de chips, une tortue pourrait s'étouffer avec, elles sont en voie d'extinction. On a trouvé beaucoup de choses, franchement, je suis déçu des Libanais.
Où qu'on aille, on voit des gens qui jettent leurs déchets dans la mer, sur les plages, dans les rues.
En moins de 2 heures, ces jeunes Libanais ont rempli des dizaines de sacs de détritus et même exhumé des pneus. Une pollution venue en amont pour Marco Sado, le biologiste marin.
Le problème, c'est que 90% de cette poubelle qu'on a là, elle est venue par les rivières. Parce que les municipalités en haut de la montagne, elles les jetaient dans les rivières. Et les rivières les emportaient avec les pluies et les jetaient à la plage.
Les déchets seront ensuite triés et donnés à des entreprises de recyclage, comme Plastic Lab au nord de Beyrouth. Fondée par 2 frères, Ralph et Ramisbert, elle compte 7 employés. Ici, rien ne se perd, tout se transforme.
On peut voir aussi le broyage ici. Donc, à la fin, c'est ce qu'on est en train d'obtenir. C'est la première étape pour le plastique. On est en train de transformer ce broyage en matériaux comme des poutres, des plaques et tout.
Dans l'atelier, les paillettes sont ensuite fondues.
Il y a ici des plaques chauffantes. Et puis on va avoir comme une sorte de pâte à modeler. Et puis ça va être injecté dans le moule. Et puis quand c'est froid, on le met dans un bac à eau. Et puis ça va être la forme du moule.
Matériaux de construction, meubles et même accessoires, l'usine remodèle 60 tonnes de plastique par an.
On est un des joueurs ici au Liban qui sont en train de minimiser le volume des déchets. Le problème principal, c'est qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de décharge pour mettre les déchets.
Tandis que le seul site d'enfouissement de Beyrouth est sur le point de déborder, si rien n'est fait, les poubelles pourraient s'amonceler dans les rues. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Un reportage à retrouver, si vous le voulez, comme toutes nos informations, sur l'appli RFI Pure Radio. A tout de suite, on se retrouve dans une minute pour l'actualité africaine.
Du 19 au 21 juin, le festival Gnawa et Musique du Monde revient à Essaouira plus vivant et plus intense que jamais. 3 jours de fêtes, de trance et de rencontres exceptionnelles. Plus de 30 madeleines seront entourées d'artistes venus des quatre coins de la planète. Sima Funk, Abera Labed, Rokia Kone, Dafer Youssef, Sike, Marcus Gilmore et bien d'autres. À Essaouira, les frontières tombent, les cœurs s'accordent et la musique unit. Rejoignez-nous du 19 au 21 juin 2025 pour un festival pas comme les autres. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
En partenariat avec RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
Pour son troisième album, Léonie Pernet se place sous les auspices du poète René Char. Mais la guerre en Ukraine, à Gaza, sa famille paternelle qui vit au Niger l'ont aussi inspiré pour raconter un monde en éclats. Plume acérée, musique électro, 11 chansons baptisées poèmes pulvérisés.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RTL.